Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors, bonjour à tous. Il y a quelques jours, l'Institut Agro de Montpellier tenait son 12e colloque, le 12e colloque de la chaire UNESCO sur le thème du travail dans les systèmes agricoles et alimentaires. Ainsi, chaque année, depuis 2011, la chaîne Alimentation du Monde, qui est labellisée par l'UNESCO, en partenariat avec les institutions d'Agropolis internationale, choisit un thème spécifique pour son colloque. Mais toujours, elle rappelle son souci d'évoquer les systèmes alimentaires du monde et plus particulièrement urbains. Vous savez que 56% de la population mondiale, soit 4,4 milliards d'habitants, vivent aujourd'hui en ville. Et que cette tendance va se poursuivre puisqu'on prévoit 68% d'urbains en 2050. Alors, grâce à l'organisation de Dialogue Alimentation-Société, eh bien la chaire Supagro cherche à donner un sens à ses recherches sur la réduction des inégalités d'accès à l'alimentation, les itinéraires techniques de production et de logistique, la limitation du gaspillage alimentaire, le recyclage des déchets, les filières à ancrage territorial, etc., etc. Et comme d'habitude, Nous n'avons qu'une terre tente de mieux faire connaître ce lien entre les pratiques locales et l'organisation des systèmes alimentaires. En fait, c'est une préoccupation d'équilibre planétaire qui ne doit pas se diluer dans l'universel. Alors, on va en reparler ensemble. Alors, Damien Guenaré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome de formation. Vous avez assuré la rédaction en chef de la revue trimestrielle Courrier de la planète, y traitant des enjeux globaux de développement, d'environnement, d'agriculture. Alors, moi, j'ai connu ce Courrier de la planète qui m'a un petit peu formé, je peux dire. C'était il y a longtemps déjà.
Eh bien oui, c'était il y a quelques années. Ouais, moi, j'étais arrivé en 99, donc c'était à l'époque au sein de l'ONG Solagral, Solidarité Agricole et Alimentaire. Une ONG basée ici à Montpellier, très intéressante, parce qu'elle faisait le lien entre la recherche, les politiques, les ONG de plaidoyer. Et on était très penchés sur les questions internationales. Ouais,
et vous êtes tous devenus des grands, puisque en fait, Laurence, tu viens là aujourd'hui, négocie tous les problèmes de développement durable et de climat. Je me souviens qui a pris, il y avait quelqu'un chez vous qui a pris la responsabilité de l'INRAE, qui était aussi avec vous.
Ouais, alors peut-être vous pensez à Marcel Marlois ou...
Non, mais enfin, je sais plus. Et puis vous qui êtes donc à Supagro. Alors vous êtes secrétaire général de cette chaire UNESCO Alimentation du Monde depuis sa création en 2011 à Montpellier. Et avant de parler alimentation, peut-être que vous allez nous ajouter deux mots sur ce qui se trame donc chez vous à Supagro. Parce qu'on a un peu l'impression finalement qu'on y parle beaucoup de recherche agricole, mais finalement on y fait autre chose.
Complet Supagro, qui est donc l'école d'ingénieurs agronomes, est devenu récemment l'Institut Agro Montpellier, puisqu'en fait on s'est regroupé entre trois écoles d'ingénieurs avec Rennes et Dijon. Donc c'est effectivement principalement de l'enseignement supérieur et aussi donc un peu de recherche qui est menée ici. Ouais.
Alors vous avez une sorte de vision un peu systémique dans votre manière d'aborder les choses?
Oui, absolument. Ouais. Donc nous, la chaire, elle existe depuis 2011. Et donc, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Et donc, on a effectivement des activités différentes autour de l'alimentation, notamment de la formation. On gère un master spécialisé qui s'appelle Innovation et politique pour une alimentation durable. Ensuite, on a beaucoup d'activités de coordination, de programmes de recherche, en particulier sur les systèmes alimentaires urbains. Puis après, beaucoup d'activités de diffusion des connaissances. à travers des publications, des colloques, et notamment un ouvrage qui s'appelle « Une écologie de l'alimentation », où justement voilà, on aborde l'alimentation sous le prisme systémique, on va dire. C'est un système alimentaire au sens où on se soucie de production, transformation, distribution, consommation, jusqu'à la gestion des déchets. Donc c'est vraiment effectivement l'idée d'avoir une approche systémique de l'alimentation. Ouais.
Alors, bon, on va avoir l'occasion d'en reparler tout au cours de cette émission. Alors, après des années, on va dire, glorieuses, on perçoit aujourd'hui des malaises. Malaise des paysans, des consommateurs, des précaires, auxquels viennent s'ajouter des catastrophes nouvelles, comme le réchauffement climatique, la sécheresse, la diminution de la biodiversité. Alors, bon, quand on écoute un peu les médias, les grands médias, on a l'impression qu'on va vers une catastrophe alimentaire mondiale. Est-ce que finalement on peut nourrir le plus grand nombre des habitants et puis en même temps sauvegarder cette planète ?
Ouais, ben ça, c'est sûr que c'est une équation qui devient très compliquée, effectivement, de pouvoir nourrir l'ensemble de la population. Tout en, comme vous dites, tout en préservant les ressources naturelles. Bon, déjà, il faut savoir que pour le moment, on produit, si on rapporte au nombre de calories nécessaires par individu, largement suffisamment pour nourrir l'ensemble de la population mondiale. Donc on est loin du scénario catastrophe qu'on nous décrit souvent et qui est souvent une manière de légitimer, on va dire, une vision très productiviste de l'agriculture.
Alors, expliquez-nous un petit peu ça.
Ouais, ben c'est-à-dire que là, actuellement, voilà, on vu tout ce qu'on produit de denrées agricoles et alimentaires dans le monde, il y aurait suffisamment, en théorie, en tout cas numériquement, pour nourrir tous les habitants de la planète. Après, évidemment, c'est pas le cas concrètement, parce que la richesse de ce qui est produit est mal répartie. Quoi. D'une certaine manière, c'est comme si l'analogie avec la richesse est bonne, c'est-à-dire qu'on est globalement riche, maintenant c'est mal réparti. Donc c'est pareil pour l'alimentation, c'est-à-dire qu'on produit suffisamment possible, potentiellement pour nourrir tout le monde, mais malheureusement c'est relativement mal réparti. Ou alors il reste des zones, et les zones où sévit la malnutrition sont des zones souvent de conflit, ou des zones de catastrophes naturelles, ou de problèmes où le changement climatique s'opère particulièrement, impacte particulièrement. Donc on voit qu'il y a encore des zones de malnutrition dans le monde qui sont liées aux raisons que je viens d'invoquer, mais sinon, d'une manière globale, en fait, on produit déjà suffisamment, et sachant même que, en plus, on gaspille énormément, puisqu'on considère qu'à l'échelle mondiale, environ 30% de ce qui est produit n'est finalement pas consommé. Donc même en gaspillant autant, on produit bien suffisamment. Quoi.
Alors j'aimerais bien qu'on revienne quand même un peu sur cette notion globale par rapport à des situations locales qui ne sont pas satisfaisantes. Par exemple, on a vu à l'issue de la déclaration de guerre avec l'Ukraine, subitement on nous a annoncé que la planète allait mourir de faim. Parce qu'on ne pouvait plus on ne pouvait plus transporter ce qui était fourni par le grenier ukrainien. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans tout cela ?
Ce qu'il en est, c'est qu'on s'est rendu compte que d'abord tout le monde n'était pas directement impacté par la crise en Ukraine. Alors, oui, c'est certes le grenier à blé. Un des greniers à blé avec la Russie et voilà parmi les premiers exportateurs. Donc il y a certains pays, notamment au Proche et Moyen-Orient, qui sont effectivement extrêmement dépendants des céréales de l'Ukraine, cas de l'Égypte, du Liban et d'autres. Donc évidemment, c'est des pays là pour lesquels ça posait clairement problème l'idée que l'Ukraine ne puisse plus exporter son blé. Bon, finalement, il y a eu un accord un peu géostratégique pour justement ne pas poser problème à ces pays et donc autoriser un couloir d'exportation. Mais voilà, ça reste quand même un nombre limité de pays qui sont strictement dépendants des céréales ukrainiennes. Pour le reste du monde, on se rend compte, et notamment en Afrique noire, contrairement à ce que souvent on veut bien dire, il y a une certaine forme d'autonomie alimentaire par des productions locales, et c'est des marchés qui ne sont pas si dépendants que ça des céréales internationales, ou alors d'autres. Plutôt du riz, plutôt que de, plutôt que du blé, quoi.
Alors justement, vous faites souvent des formations dans les grandes écoles de France, hein, et vous dites que finalement on a un système qui est agro-industrialisé. Ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire sur le grenier à blé ukrainien. Donc un système agro-industrialisé qui dépend finalement, qui donne à voir une politique, un syndicat, un système financier, un monde qui finalement a perdu un peu le contact avec toutes nos réalités, les réalités des régions.
Oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire pour faire très court, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous, en Europe occidentale, on a effectivement que sortir de la Deuxième Guerre mondiale, une situation qui est assez, assez catastrophique en termes d'agriculture. Et donc, il s'agit, là, littéralement, on connaît la fin, donc il s'agit de produire à nouveau et de produire en grande quantité pour retrouver notre autonomie alimentaire, ne pas dépendre des plans Marshall américains. Et donc pour ce faire, ben comme vous dites, il y a effectivement des banques, des prêts particuliers, une politique publique à l'échelle européenne, la politique agricole commune, des subventions, etc., dédiées au développement d'une agriculture beaucoup plus productive, et puis avec un paquet technologique, comme on dit, c'est-à-dire la mécanisation, des semences améliorées, et puis des produits de protection des plantes contre les attaques d'insectes et autres champignons, maladies. Et du coup, ben voilà, et puis un appareil de recherche qui se met en place pour soutenir cette modernisation de l'agriculture. Et donc, on obtient effectivement quelque chose d'extrêmement efficace et qui s'est avéré gagnant, dans le sens où, ben effectivement, aujourd'hui, potentiellement, tout le monde peut avoir accès assez facilement à une alimentation à relative bas prix.
Alors, qui s'est avéré gagnant, ouais, dites-vous? Mais il y a quand même au moins aujourd'hui un débat à ce sujet. Moi, j'ai vu par exemple, dès la déclaration de guerre de l'Ukraine, donc le 24 février 2022, on a vu immédiatement la FNSEA qui lançait un communiqué et qui en profitait pour remettre en question finalement tout le processus que l'Europe avait, que les citoyens européens avaient réussi à mettre en place, hein, c'est-à-dire à faire évoluer l'agriculture vers un peu de l'agroécologie et essayer en tout cas ce qu'on appelait de la fourche à la fourchette, hein, de rassembler un petit peu, de remettre un peu plus proche des gens les productions, etc. Et immédiatement, profitant de cette déclaration de guerre et des risques dont on vient de parler, immédiatement, la FNSEA a essayé de remettre en question cette manière de produire.
Oui, absolument. C'est-à-dire que là, je vous décrivais effectivement quelque chose de gagnant, dans le sens où on a pu réussir à effectivement produire massivement et donc éradiquer la malnutrition en Europe. Dans ce sens-là, ça a été effectivement gagnant. Gagnant aussi dans le sens où on n'a plus de problème, hormis quelques scandales sanitaires, mais globalement, on n'est pas empoisonné par notre alimentation. Il n'empêche que, effectivement, et c'est important de le rappeler, j'allais y venir quand même, mais que ce système agro-industrialisé, évidemment, c'est pas fait sans dommages. Que ce soit sur la santé, on connaît toutes les nouvelles pathologies nutritionnelles, d'un point de vue social et économique, c'était justement le sujet de notre colloque sur le travail, mais c'est un système qui prospère aussi sur un travail qui est largement précarisé, mal considéré, mal payé, etc. C'est un système aussi qui s'est du coup hyper spécialisé, où on sait que une grande partie de la valeur ajoutée est captée par les industriels du milieu, comme on les appelle, c'est entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, ça où dépend des agriculteurs. Et puis, évidemment, toute une somme de problèmes environnementaux, l'épuisement des ressources en eau, l'épuisement des sols, les pertes de biodiversité, vous l'avez noté tout à l'heure, puis des pollutions, des émissions de gaz à effet de serre, etc. Donc voilà, c'est un système qui effectivement pose largement problème et qu'on tente de réformer depuis un certain nombre d'années, notamment à l'échelle européenne, et vous le signaliez à juste titre, cette nouvelle
façon de voir. Hein.
Oui, voilà, enfin... ce projet Farm to Fork qui est extrêmement ambitieux de réduire par deux, par exemple, l'usage des pesticides, d'augmenter x2 la surface en bio. Et donc c'est un peu un nouveau projet qui malheureusement n'a pas été complètement adopté par la politique agricole commune, mais enfin qui est là, qui est une émanation du Parlement européen.
Ça avait avancé un petit peu, quoi.
Remis en cause complètement au moment de la guerre en Ukraine, où tout d'un coup c'était, bon voilà, on arrête avec, je caricature, mais c'était en gros, on arrête un peu avec les bêtises, on revient à de la production classique telle qu'on sait la faire. Parce que avec la guerre en Ukraine, on va être affamé. Bon,
évidemment. Oh, vous caricaturez à peine, hein. C'est en gros ce qui se disait.
Ouais. Donc c'est vrai que c'est le genre de crise qui reviennent régulièrement et qui à chaque fois justifie effectivement une espèce de retour en arrière vers un productivisme à tout craint et remettre en cause des velléités environnementales. En tout cas, respectueux de l'environnement.
Alors, on avait vu, par exemple, que le Covid avait amené un changement et que les gens s'étaient rendus compte qu'ils étaient dépendants et ils voulaient retrouver leur autonomie. Donc, on a eu un peu un retour au local. Mais est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose qui est ancré de manière longue et solide?
Ouais, bah ça c'est très discuté. Alors vraisemblablement, il y a beaucoup d'études qui montrent que ben voilà, un certain nombre de choses qui s'étaient mises en place effectivement durant le Covid, tout le monde a pris conscience, effectivement, on s'est demandé d'où venait son alimentation, tout d'un coup s'est mis à consommer plus auprès de circuits courts, auprès des petits commerçants, etc., ou même en bio. Vraisemblablement, cette tendance s'est un peu retournée. C'est-à-dire que ben voilà, il y a eu un grand boom pendant cette période-là des confinements et qui visiblement est relativement retombé, quoi. Donc voilà, l'inscription dans le long terme est encore fragile. Mais c'est vrai qu'il y a une appétence pour retrouver en gros du lien avec nos producteurs, retrouver, comprendre où est-ce qu'a été produit ce qu'on consomme, comment et par qui il a été transformé, par qui il est distribué aussi, hein, puisqu'on voit pas mal d'initiatives en termes de supermarchés coopératifs. Donc, en gros, les gens veulent reprendre un petit peu la main sur leur alimentation.
Alors, on va y revenir un petit peu sur ces systèmes coopératifs et sur la manière, parce que je pense que ça mérite, les citoyens montpelliérains ont besoin de savoir comment ils peuvent reprendre tout cela en main. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas attendu le Covid pour commencer à parler de ces problèmes de dépendance. Moi, je me souviens qu'il y avait eu le pacte de Milan qui avait été reçu à Montpellier, et on avait commencé à faire un peu des liens avec... Est-ce que vous y étiez et est-ce que vous y aviez participé?
Alors moi, je n'ai pas participé directement au moment de la signature en 2015, c'était au moment de l'exposition universelle à Milan, mais on avait contribué à faire venir à Montpellier en 2019 une rencontre justement des villes signataires du pacte de Milan. Et donc, effectivement, un réseau de villes internationales qui s'engage à mener sur leur territoire des politiques alimentaires vertueuses en matière de production et consommation.
Est-ce que vous avez suivi cette affaire qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Oui, absolument, on a suivi cette affaire. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que aujourd'hui, c'est des villes qui sont engagées alors de manière strictement volontaire. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sanctions si les politiques qu'elles ont mises en œuvre n'étaient pas appliquées ou sans effet. Donc c'est vraiment des engagements volontaires. Donc on peut considérer que ça n'engage que ceux qui souscrivent. Mais justement, ça permet de lancer des dynamiques sur les territoires. Et puis surtout, ça permet des échanges de pratiques. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que il y a un nombre de leviers dont les villes disposent pour améliorer l'alimentation sur leur territoire. Et en échangeant des bonnes pratiques, ça permet aux élus, aux personnes qui sont investies dans les services techniques des villes, d'échanger des manières de faire. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, ces villes-là, elles essayent de peser politiquement. et donc de faire réseau. Donc ça, c'est, il y a le pacte de Milan à l'échelle internationale, mais il y a eu, à l'échelle française, il y a eu les assises territoriales de la transition agroécologique et l'alimentation durable, qui réunit beaucoup de collectivités territoriales. Et donc la première édition avait eu lieu à Montpellier en 2019. L'année dernière, la deuxième a eu lieu à Nantes, et à l'issue de laquelle il y a eu une déclaration en fait de ces collectivités en faveur d'une alimentation plus saine, plus inclusive. Et voilà, l'idée, c'est de faire du plaidoyer pour peser un petit peu à des échelles qui les dépassent, par exemple l'échelle européenne, mais où justement tout se décide au niveau de la politique agricole commune.
Bon, alors, donc, vous nous le précisez, c'est surtout les villes qui s'engagent. Et donc, on est surtout sur cet impact que peuvent avoir les villes et le réseau des villes de demain.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup de collectivités qui... La facilité, j'allais dire, c'est qu'effectivement, on est sur des territoires métropolitains qui souvent allient l'urbain et le rural. Donc du coup, c'est des territoires sur lesquels il y a des terres agricoles. On est dans le cas de la métropole de Montpellier, mais bon, il y a plein d'autres métropoles en France ou évidemment ailleurs qui disposent de terres agricoles. Et puis, elles ont un certain nombre de leviers, de pouvoirs à actionner, que ce soit au niveau de la restauration collective, que ce soit au niveau de l'urbanisme commercial, que ce soit au niveau de la, encore une fois, de la gestion du foncier, de l'approvisionnement. Par exemple, souvent des métropoles disposent de d'outils de marché de gros, comme ici à Montpellier, avec le MIN, marché d'intérêt national. Elles ont la main sur la gestion des déchets, etc., etc. Donc voilà, elles ont un certain nombre de leviers pour organiser l'agriculture et l'alimentation sur leur territoire. Donc, des échelles qui sont pertinentes. Hein.
Pourtant, ça n'avance pas très vite. Enfin, bon, si on se réfère un peu à l'histoire, on voit qu'au XIXe siècle, il y a déjà des coopératives qui avaient été mises en place par les filatures, par le système minier, etc. On retrouve ça aussi dans les écrits de Fourier. Enfin, on avait énormément de gens qui, au travers des coopératives, se mobilisaient pour changer l'alimentation dans les villes. Alors, pourquoi on n'avance pas plus vite ?
Alors on n'avance pas plus vite parce que du coup c'est un mouvement assez récent là en France, on peut dire que c'est 15 à même 10 dernières années que ça s'est remis en œuvre. Alors pendant des décennies, c'est d'une certaine manière un système.
On l'a oublié quoi, c'est tombé en désuétude.
On l'a oublié, c'est tombé en désuétude, vu qu'il s'était agro-industrialisé, c'était des acteurs qui agissaient à des échelles nationales ou internationales qui géraient l'alimentation. Les collectivités locales, en dehors de la restauration collective, on va dire, de la restauration scolaire, ne s'en sentaient pas particulièrement impliquées dans les questions d'agriculture et d'alimentation, voire même pas du tout. Et puis là, il y a quand même un mouvement, et notamment à la faveur de la nouvelle loi d'orientation de l'agriculture de 2014, qui a favorisé l'établissement de projets alimentaires territoriaux. Oui, c'est relativement récent, ça a une petite dizaine d'années, on va dire.
Ah oui, donc si peu, en fait.
Alors, il y a eu des villes, à l'international, il y a eu des villes pionnières qui se sont remises sur ces questions d'alimentation il y a plus longtemps, début des années 90, par exemple au Brésil, qui avait initié justement le projet Faim Zéro. Ça s'était fait au sein d'une ville qui avait cherché à lutter justement contre la malnutrition. Après, en Amérique du Nord aussi, il y avait des villes assez pionnières comme Toronto au début des années 90. Mais en Europe, c'est plus récent et en France encore plus.
Mais c'est parce qu'on était tellement marqué par cette certitude et cette complicité avec le système agro-industriel.
Oui, c'est ça. Et donc, il n'y avait pas de volonté particulière de reterritorialiser, de relocaliser nos systèmes alimentaires. Pas forcément de demande, pas forcément d'intérêt. Et là, il y a une conjonction entre, je pense, une demande des consommateurs de se réapproprier leur alimentation, de territoires qui ont voulu réinvestir un champ politique qui n'était pas le leur, parce qu'en fait, les villes n'ont pas de compétences particulières autour de l'alimentation. Elles ont un certain nombre d'outils qu'elles peuvent actionner, mais pas forcément de compétences. Donc souvent, il n'y avait pas de direction qui existait autour de l'alimentation. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui existent très naturellement, quoi.
Alors, on peut dire que Montpellier, finalement, est loin d'être en retard sur le reste de la France. Il y a eu déjà beaucoup d'initiatives. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça avance plus vite ? Alors, d'abord, essayons d'évoquer un peu les initiatives que vous avez, vous, repérées.
Ouais. Mais il y en a un certain nombre. Alors, c'est en l'occurrence, ouais, Montpellier est non seulement pas en retard, mais même plutôt pionnière en la matière, puisqu'elle avait lancé une politique agroécologique et alimentaire dès 2014, à une époque où peu de villes avaient lancé une politique transversale de ce type-là, et donc qui s'est organisée autour de plusieurs sujets, par exemple la gestion du foncier, c'est-à-dire que la métropole de Montpellier dispose de fonciers, de terres agricoles.
Autour
de la ville, voilà, c'est ça. Autour de la ville, bah oui, parce qu'on n'a pas de terres agricoles dans le tissu urbain, mais enfin très proche. Donc il y a un certain nombre de, comme la Condamine, ou le Masnouguier, l'arrêt de Tram Sabine, ou plus loin à Jacou, le domaine de Vigier. Et donc des terres agricoles sur lesquelles la métropole a lancé des appels à projets pour l'installation de jeunes, moins jeunes d'ailleurs, agriculteurs, du coup qui s'installent plutôt sur les pratiques agroécologiques.
Et où on y respecte le zéro construction demandé?
Ben oui, parce qu'en l'occurrence, là, c'est des terres qui sont sanctuarisées, quoi, puisqu'elles restent agricoles, quoi. Elles sont pas artificialisées, ouais.
Bien. Alors, est-ce qu'on a vu des projets alimentaires territoriaux donc à partir de ça? Et puis, on a évoqué aussi sur le tissu montpelliérain de l'organisation de la distribution.
Oui, absolument. Il y a un gros projet autour de la, justement, pas se contenter de distribution, justement, d'imaginer des alternatives à la distribution d'aide alimentaire pour les plus démunis, pour les populations les plus vulnérables. Et donc, il y a un grand projet là de caisse alimentaire commune qui s'est mis en œuvre, et là aussi Montpellier n'est pas en retard parce que c'est la première ville en France qui teste ce dispositif à l'échelle de la ville. Et donc c'est sur le modèle de la sécurité sociale, imaginez l'équivalent de ce qui serait une sécurité sociale de l'alimentation. C'est l'idée que au sein d'un groupe constitué, des gens cotisent à la hauteur de leurs revenus. Là, pour le coup, là, dans l'expérience montpelliéraine, c'est vraiment une forme de cotisation volontaire, c'est-à-dire que les gens cotisent ce qui leur semble juste pour eux, et puis disposeront, quoi qu'ils aient cotisé, d'un chèque, d'un bon, enfin d'un équivalent de 100 euros pour se fournir dans des magasins une alimentation saine, respectueuse de l'environnement et des agriculteurs qui la produisent.
Donc là, on a à la fois sur ce schéma une gouvernance qui a été mise en place, puisque la mairie de Montpellier s'engage pour continuer l'expérience, et en même temps tous les acteurs de la chaîne que vous aviez évoqués lors de votre dernier colloque qui sont membres.
Oui, alors pas forcément tous, mais en fait c'est un comité citoyen qui s'est mis en place, donc c'est une cinquantaine de personnes issues de différents quartiers de la ville qui ont décidé eux-mêmes, par des processus participatifs, comment ils organiseraient cette caisse qui, comme vous l'avez dit, est en partie financée par la ville, une autre partie financée par des acteurs plus privés comme des fondations. Et donc ça va permettre, par un système de péréquation, d'aider les plus vulnérables à se nourrir très correctement.
Bon, Damien, on aura sans doute l'occasion de refaire un point sur cette caisse alimentaire commune et de voir comment elle évolue. Peut-être avez-vous des rendez-vous à nous donner?
Eh bien, écoutez, là, on a un agenda, pas rien de particulier, si ce n'est si vous voulez écouter des podcasts ou des émissions. Il y a un podcast qu'on a réalisé il n'y a pas très longtemps, dans la série « Six pieds sous terre ». Et puis une émission sur RFI récemment qui est tirée justement de notre colloque sur le. Et là, plutôt sur la question du genre dans l'agriculture, l'alimentation, c'est l'émission Le goût du monde.
Bien, merci. On est obligé de se quitter, mais je sais qu'on aura l'occasion de se reparler et de reparler un petit peu de cette coopération autour de l'alimentation. Merci à vous.
Merci bien.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.